Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Dans l'émission aujourd'hui, vous allez voir qu'on va tirer encore dans pratiquement toutes les directions.
Oui, pas mal.
On va parler d'automobile.
Absolument.
Avec
Marc Bouchard.
Bien sûr.
Oui.
Nous allons parler également de, écoutez le grand terme là,
oui,
réparabilité.
C'est beau ça.
C'est beau, c'est un beau.
C'est très beau.
Pas oui. Comment ça paye au Scrabble.
Au Scrabble, oui. Ouais. Réparabilité. Non, ça doit pas être bien payant. C'est pas,
non,
des gros,
mais...
c'est pas des grosses lettres, ça, là.
Ouais, un R peut-être, je sais pas, là.
Ouais.
Tu mets ça sur un mot compte trip, c'est quand même long, là.
Bah, oui, oui, oui. OK, oui, oui. Ah, ça, je vais te le donner.
On va parler aussi d'aviation un petit peu plus tard dans l'émission.
Oui.
Toi, tu auras un sujet également à la toute fin dans le dernier bloc. Mais d'entrée de jeu, on veut saluer quelques-unes des radios qui nous diffusent à travers le pays. Je pense qu'on est rendu à tout près d'une vingtaine, si c'est pas 20, là,
oui,
qui diffusent l'émission ici et là. Et parmi elles,
oui, CKRP à Falaire, en
ouais,
Alberta,
Nord-Ouest
FM,
c'est ça qu'on appelle, ouais.
Également les radios membres du groupe C-Média, c'est-à-dire à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, Fredericton, Miramichi et aussi Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Évidemment, il y en a d'autres. On en a déjà salué.
Oui.
Et nous aurons l'occasion, par ailleurs, d'en saluer d'autres au cours du reste de la saison.
Toujours agréable parce que... de dire bonjour aux gens.
Ah oui. Salut les gens, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez. Merci de nous écouter.
Oui.
Ça a l'air formule quasiment de... Comment il s'appelait le capitaine Cosmos?
Le capitaine Cosmos.
Où que tu sois.
Oui.
Quoi que tu fasses, qui que tu sois. Que la force soit avec toi.
C'était ça, deux morceaux de robots, hein?
C'était un ou deux morceaux de robots qui tenaient par,
ouais,
par bonne réponse,
c'est
je sais pas
ça
trop. Quand t'en avais une grosse, t'avais
deux morceaux de robots.
Mais quand tu répondais à une petite facile, c'était un morceau de robot.
Et Simon, les gens qui aimeraient communiquer avec nous, envoyez des commentaires, vous avez des choses à nous dire, gênez-vous pas. Notre adresse courriel, c'est pcdi@radiorfa.com.
Vous pouvez essayer aussi par la télépathie.
Ça fonctionne.
Pas sûr que ça se rende tout le temps, là, par exemple. Je pense qu'avec le courrier électronique, vous avez un petit peu plus.
Ouais, ça dépend dans quel état.
un petit peu
on
plus,
est,
là,
mais, oui.
Ouais, ben, c'est ça, ça dépend de l'heure à laquelle tu te prends.
Exactement.
Si vous rêvez à moi pendant la nuit.
Ouh, oh non, on va pas aller là, Simon, arrête ça, là. Drette là, on m'aligne. on m'aligne, drette là.
OK.
OK.
Bon. Tu voulais nous parler de quoi?
Ben, moi, je veux vous parler d'eau.
Parce que comme l'eau qu'on consomme, là, là.
Oui, le H2O.
OK.
Parce qu'on va en manquer un moment donné. Ben, déjà, on en manque, là.
Ben, en tout cas, il y a des endroits sur le globe où...
C'est déjà un gros problème.
C'est le gros.
Mais l'eau consommable, ben, c'est ça. Avec le réchauffement climatique qui s'accentue, on va devoir trouver un moyen d'augmenter notre offre d'eau douce.
Mm-hmm.
Parce que on va pas en avoir assez pour les besoins de l'humanité, les besoins qui s'en viennent. Selon Praveen Kumar, qui est professeur à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, lui dit que l'évaporation océanique, favorisée par la montée du mercure, bien entendu, mm-hmm, pourrait servir de réservoir en eau potable. Tu sais, parce qu'on a déjà parlé de dessaliner les océans.
Oui, la désalinisation.
Hein? Oui, voilà. Fait que, au lieu de s'élever dans l'atmosphère, l'air qui est saturé en eau serait capté par des structures d'extraction qui seraient implantées au large des côtes.
OK.
Avant d'être condensé, puis transporté par des gros tuyaux et être stocké avant d'être distribué. L'avantage de ce procédé-là, c'est que en s'évaporant et en se transformant en gaz, l'eau de mer perd la quasi-totalité de son sel naturellement.
Oh!
C'est pour cette raison-là que l'eau de pluie est pas salée.
Ah!
C'est pour ça.
OK, c'est pour ça.
Oui, le traitement pour la rendre propre à la consommation, donc, nécessiterait bien moins d'énergie et d'impact environnemental que les méthodes existantes
pour
comme la semure, l'eau usée chargée et les métaux lourds.
Ouais. Ah, ben c'est bien ça.
Oui. Et puis, on parle de milliards de litres d'eau qu'on pourrait aller, selon les scientifiques, des parcs éoliens en mer et des panneaux solaires terrestres pourraient servir à alimenter l'ensemble du système. Cette technique va reproduire le cycle naturel de l'eau, si tu veux.
Ouais.
La seule différence est qu'ils peuvent guider la destination de l'eau évaporée de l'océan. Les chercheurs estiment qu'une surface de capture verticale de 210 mètres de large et 100 mètres de haut peut fournir un volume suffisant d'humidité extractible pour répondre aux besoins quotidiens en eau potable, tiens-toi bien, d'environ 500 000 personnes.
Hein, à ce point-là?
À ce point-là. Ces données ont été obtenues en faisant une simulation sur 14 sites soumis à un stress hydrique et situés à proximité de centres de population qui sont quand même importants. Mm-hmm. Là, on parle entre autres Los Angeles, Rome.
Ouais.
Selon les modèles, ce type de dispositif pourrait générer entre 37,6 milliards et 78,3 milliards de litres d'eau par an.
Mm-hmm. Étonnant.
Alors, c'est pas... on va voir ce que ça va donner. On va continuer à faire des...
le principe
à faire des expériences, là, mais le principe est logique.
Le principe est logique.
Ben oui.
Je suis capable de faire de l'eau, moi aussi, chez moi, dans mon sous-sol, avec mon déshumidificateur.
Oui.
Pas clair que je vais prendre un verre de cette eau-là par la suite, par exemple, pour le boire.
Non, moi non plus, j'en prendrai pas.
Il y aurait probablement besoin de bon système de filtration.
Ouais, la faire bouillir un petit peu.
Un petit peu. Mais le principe reste là, pareil.
C'est un peu la même affaire.
On ramasse de l'humidité qui est dans l'air.
C'est ça.
Et on envoie ça dans une cuvette, puis après ben ça,
oui.
Ben...
Fait que c'est le même principe qu'on ferait à grande échelle.
Wow!
Qui pourrait régler un gros problème qu'on va avoir plus tard.
Ouais, intéressant. Merci beaucoup. Moi, je vous parle aujourd'hui d'un phénomène qui touche le milieu du travail, phénomène tout à fait étonnant, que vivent plusieurs employeurs depuis qu'on est sorti de la pandémie.
OK.
Ouais. Ça s'appelle le quiet quitting.
Le quiet quitting.
Ouais, quitting, qu'est-ce
dans
que
ça... Dans le sens de partir.
De partir.
Oui.
Quiet comme tranquille.
Oui.
Alors... a priori, on aurait peut-être tendance de penser que tranquillement, pas trop vite, les gens délaissent leur employeur.
C'est ça, ça désintéresse, puis s'en vont, oui.
Mais ce n'est pas tellement ça comme l'art de ne pas trop en faire pour l'employeur.
Oh, OK.
Ouais. Faites une recherche sur Internet, juste avec les, comment on appelle ça, les apostrophes, oui, c'est ça.
Oui.
Quand tu prends
les guillemets,
tu mets les guillemets, tu mets « quiet quitting » dans Google, il m'a sorti 4,2 millions de résultats. Ouais, ça cartonne dans les réseaux sociaux. On parle beaucoup de ça. Je vous explique un peu. C'est un terme qui, comme je le disais tantôt, pourrait laisser croire que les gens, tranquillement, pas trop vite, abandonne l'entreprise ou enfin prépare leur démission, on va dire, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le quiet quitting, c'est pas de délaisser tranquillement son employeur, comme le nom peut le laisser entendre, c'est ce que toi tu présumais,
mais
c'est plutôt que de ne faire que le strict minimum pour l'employeur.
Mmh.
Parce que pendant la pandémie, il y a des gens qui se sont aperçus que ils en donnaient peut-être un peu, même beaucoup trop pour leur employeur. Et je sais pas si c'est par un acquis de conscience ou je sais pas qu'est-ce qui a sonné une cloche à un moment donné dans la tête des gens. Ils ont dit, garde, je vais penser à moi. Je vais en donner le strict minimum. Et on me demande de rentrer à telle heure, je rentre à telle heure. On me demande de sortir à telle heure, je sors à telle heure.
Je prends mon break à telle heure.
Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est pas de démissionner tranquillement de ses fonctions, mais l'employé en fera pas plus ni moins.
Okay.
Donc, comme je l'ai dit, si vous lui dites, ben ton chiffre commence à 8 heures, attendez-vous pas qu'il arrive à 7h45 ou à 7h30. Là. Lui, il va arriver 8h moins 2, les bottes vont être sur le bord de la porte, le manteau va être accroché, à 8 heures, il va commencer à travailler. Fini à 4 heures?
Et même il est au
service, c'est ça, il est au service client, il bookera pas des rendez-vous à 4h moins quart là.
Non.
À 3h30 là, il faut que le dernier rendez-vous soit passé pour qu'à 4h il mette la clé dans ses rues, il s'en aille du bureau. Alors, c'est un petit peu ça et ça commence à être un problème pour certains employeurs, voyez-vous, parce que d'une part, on se le cachera pas, on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement. Donc on aimerait au moins pas nécessairement que les salariés en fassent beaucoup plus pour l'entreprise, mais qu'au moins
Qu'il en fasse un petit peu plus.
Oui. En tout cas,
on manque de monde, là. Fait.
Disons un peu plus preuve de souplesse.
Oui.
Parce que si le magasin ferme à 5 heures le soir, tu veux pas nécessairement que tes employés ils soient avec la montre au poignet, puis qu'ils soient là, puis qu'ils disent, hey, 5 heures, là, moi, rentre-moi pas de nouveaux clients, là, fini, là.
Oui, puis tu sais, si un client dans le magasin, tu vas pas le pousser dehors, là.
Exactement. Alors, c'est un peu ça le problème du quiet quitting qu'on a actuellement. Et d'autre part, ces employés-là vont limiter considérablement à la fois leurs chances d'avancement à eux autres et en même temps, ça ralentit la croissance potentielle de l'entreprise.
Ah ben oui, absolument.
Ben oui, parce que comment tu veux que l'entreprise progresse si des employés n'en donnent pas plus?
C'est ça.
Enfin, ils donnent le strict minimum.
Fait que tu fais juste fonctionner.
C'est ça. Puis le problème aussi pour les propriétaires d'entreprises, pour les entrepreneurs, c'est d'avoir de la relève. C'est de plus en plus difficile d'avoir de la relève. Donc, quand tu as des employés qui en donnent que strict minimum dans l'entreprise, ils en font pas plus, tu dis, OK, j'essaie de vendre la business, pas capable de trouver preneur, je pensais refiler ça à un de mes employeurs, pas de mes employeurs, mais de mes employés, et finalement, je me rends compte qu'il y en a pas un d'entre eux qui a l'air plus intéressé que ça à en faire davantage pour l'entreprise. Donc, c'est un problème de taille, surtout, qu'on remarque depuis que la pandémie tire à sa fin, particulièrement pour les petites entreprises, parce que à moins d'avoir des tâches et des descriptifs, des responsabilités qui sont clairement décrites, ben ça devient plus difficile maintenant d'en obtenir davantage de l'employé. Et là, je conclue là-dessus. Est-ce que c'est un phénomène passager? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est quelque chose qui est une tendance lourde qui va s'inscrire dans la continuité? Honnêtement, on le sait pas trop, mais on est dedans actuellement. Et parle de ça de plus en plus, le quiet quitting. Je l'ai dit tantôt, faites une petite recherche sur Internet, ouvrez les guillemets pour avoir une recherche plus précise autour du terme.
C'est ça.
Quiet quitting, fermez les guillemets. Moi, j'ai sorti sur Google Canada 4,2 millions de résultats qui parlent directement de ce phénomène-là qui est apparemment de plus en plus populaire dans pas mal... malheureusement, je dis de plus en plus populaire, mais en tout cas, un phénomène croissant.
Ouais, un phénomène croissant, puis ça va être un réel gros problème parce que, tu sais, promène-toi ces routes, ces grandes routes là du pays, là, et compte les pancartes « Nous embauchons », là.
Il y en a, c'est terrible.
Ça finit plus, là. Tu sais, on manque de main-d'œuvre. Fait qu'imagine si les gens, déjà, qui ont un emploi, mais qui font le strict minimum.
Ils en donnent pas davantage.
C'est ça, ton entreprise, c'est ça, elle va rester là.
On va peut-être avoir un petit problème d'économie dans le pays tantôt, si ça continue. Premier quart d'heure de compléter pour l'émission Peut contenir des infos. On marque une petite pause, on revient dans un instant et restez là parce qu'on est encore ensemble pour à peu près une quarantaine de minutes, tout en genre.
Cette émission peut contenir des infos.
François, c'est assez embêtant quand on achète un produit électronique, un gadget, et qu'au bout de, on va dire, 2 ans, 3 ans, cet article-là tombe en désuétude parce qu'il n'y a pas de mise à jour.
Ça n'a juste pas de sens.
Parce que la batterie arrive au bout de sa vie utile.
Quel gaspillage.
On n'est pas capable de la réparer. On va parler aujourd'hui d'un principe qui gagne en popularité à travers le monde
Et tant mieux.
Espérons-le. Va un jour trouver son petit bonhomme de chemin jusqu'à arriver chez nous, au Canada.
Oui.
Et on va discuter avec celui qu'on va retrouver à quelques reprises pendant la saison. C'est un geek avoué. C'est notre chroniqueur techno, Pierre Chauvin. Salut Pierre, comment ça va?
Ça va bien. Et vous?
Ça va bien, merci. On va parler aujourd'hui d'un principe, je le disais, qui gagne en popularité à travers la planète, qui s'appelle le droit... Et probablement que beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices ne connaîtront pas nécessairement ce terme-là, mais le droit à la réparabilité, qu'est-ce que ça mange en hiver, la réparabilité, c'est quoi? Pierre va nous le dire.
Oui, alors c'est assez simple. À la base, dans le droit à la réparabilité, c'est de pouvoir réparer ou faire réparer tout ce qui est électronique, donc son ordinateur, sa tablette, son smartphone. Sauf qu'en fait, on parle de droit à la réparabilité parce que aujourd'hui, c'est pas forcément possible de le faire. On voit par exemple certains fabricants comme Apple en fait rendent la réparation très difficile.
Oui.
Ça fait plusieurs années qu'ils construisent l'ordinateur d'une certaine façon, à tel point qu'il y a certains sites en fait qui s'amusent à donner des scores de réparabilité. Et c'est un des seuls fabricants qui a des scores de 1 à 2 sur 10, parce que oui, on peut réparer un petit peu si l'écran brise, mais c'est pas mal ça.
Bref, les entreprises, c'est à leur avantage, entre guillemets, de ne pas encourager dans une certaine mesure la réparabilité dans la mesure où ça encourage le consommateur à consommer, à racheter des produits. C'est un peu ça, finalement, la raison pour laquelle ils sont pas nécessairement très, très enthousiastes à proposer ça à leur clientèle.
Bah, d'un point de vue du consommateur, c'est sûr que c'est moins cher de faire réparer ses outils, ses appareils. Et c'est vraiment, en fait, un des grands arguments pour le droit à la réparabilité. J'ai discuté en fait avec Rosa Adario, qui travaille pour l'association Open Media. C'est une association qui milite justement pour de nombreuses choses, dont un droit à la réparabilité. Et vraiment, sur une des trois raisons qu'ils donnent, c'est le coût. Parce que faire réparer son téléphone, son ordinateur, ça ne coûte peu. En tout cas, ça devrait pas coûter très cher. Par contre, un smartphone, 600, 800 pièces, ça fait mal. Et surtout le fait qu'aujourd'hui seules les marques ont le droit de réparer sous peine de perdre la garantie, ça fait que ils ont un monopole et donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Et les autres choses, c'est qu'au fait les utilisateurs devraient pouvoir avoir le contrôle sur leurs appareils. Quand on achète un téléphone, on devrait pouvoir l'ouvrir, voir si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, remplacer. Et la dernière chose, c'est que à force de changer d'iPhone, de smartphone, de MacBook, d'ordinateur et tout ça, tous ces engins finissent à la poubelle. Et on parle de millions de tonnes par année de choses qui se recyclent pas vraiment, de choses avec toutes sortes de matériaux rares, toutes sortes de plein de choses, des tout petits pourcentages de genre d'or, de toutes sortes de matériaux qui sont fusionnés, donc on peut pas vraiment les nettoyer. Et donc il y a beaucoup de bons arguments en faveur de ce droit.
Pourquoi c'est si important que ça de pouvoir faire réparer ces outils électroniques?
Dans le droit, en fait, sur le côté plus, par exemple, si on parle de l'aspect environnemental, je lisais là un rapport de l'association en fait qui gère un peu au niveau mondial tous ces déchets. On parle que d'ici à 2030, il y aura à peu près 74 millions de tonnes. Une tonne, c'est 1000 kilos. 74 millions de tonnes de déchets électroniques produits chaque année. J'ai pas fait le calcul en combien de stades de foot est-ce qu'on remplit avec ça, mais je suis sûr que
pas mal.
On peut en remplir plusieurs. Et l'autre chose, c'est que ça coûterait moins cher de réparer, mais surtout, ça allongerait la durée de vie de nos smartphones. Donc, on les remplacerait moins souvent, moins de déchets. Donc, vous pouvez voir après où on s'en va, justement, pour cette logique environnementale, quoi.
Je l'ai dit tout à l'heure, je présume que pour les grandes entreprises, les Samsung, les Apple, les compagnies de ce monde, pour eux autres, ça ne doit pas être nécessairement à leur avantage, évidemment, qu'on ait ce droit ou cette facilité de réparer, ne serait-ce que dans une boutique, et encore mieux qu'on puisse le faire soi-même. J'imagine qu'eux autres, ils ont des arguments, justement, pour ne pas qu'on ait ce droit à la réparabilité.
Oui, alors c'est vrai que eux parlent pas de l'argument économique tellement que ça, ils aiment pas en parler. Eux parlent plutôt de questions de sécurité, une question de fiabilité. Bon, c'est vrai qu'il y a certains composants électroniques, tous les ordinateurs, tous nos appareils maintenant ont des batteries, donc c'est vrai qu'on peut, si on fait pas attention, si on suit pas de bon guide, quand même se prendre un petit choc. Et il y a aussi toutes les questions après d'espionnage industriel, de secret, il y a des brevets. Donc, on sait qu'il y a plusieurs compagnies qui sont très protectrices, disons, de leurs appareils, à tel point même que, je ne sais pas si on te l'a parlé, mais ça fait plusieurs années, il y a une bataille qui fait rage entre, et là on sort, et c'est plus juste les smartphones et les appareils électroniques. On parle des tracteurs de la marque John Deere, les fermiers américains voudraient pouvoir les réparer, sauf que John Deere met en fait une espèce de cadenas numérique qui fait que si on n'est pas autorisé à réparer, on peut pas le réparer. Et si John Deere se rend compte qu'on pirate le logiciel pour essayer de le réparer, eh bien, ce qui se passe, c'est que ils peuvent désactiver le tracteur à distance. C'est un problème. Ce qui était entre guillemets bien quand les Russes ont volé des tracteurs aux Ukrainiens. Mais là, pour les fermiers américains qui essaient juste de réparer, qui sont dans des situations financières souvent précaires, c'est compliqué. Et donc, en fait, le droit à la réparabilité, c'est vrai que nous, on l'aborde du côté smartphone et ordinateur, mais en fait, c'est un droit qui est beaucoup plus grand et qui va prendre une ampleur assez impressionnante, je pense, dans les prochaines années.
On en est où au Canada, Pierre?
pas très loin, je dirais, hein, pas très loin. Mais ça y est, il y a déjà un premier pas qui a été fait, donc Open Media qui milite pour ce droit-là, mm-hmm. avec d'autres organismes. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé, C-244, et ce projet de loi, c'est pas pour un droit à la réparabilité, c'est un peu le préambule, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on modifie la loi sur le droit d'auteur, parce que, comme je disais, en fait, aujourd'hui, les réparateurs tiers ne peuvent pas réparer vos smartphones sans annuler la garantie. Donc d'abord, il faudrait qu'on change cette loi.
Okay.
Une fois que cette loi est changée, ensuite, il pourrait y avoir une autre loi sur un vrai droit à la réparabilité. Et notamment, c'est pas juste le fait de pouvoir le faire, c'est aussi d'avoir accès au manuel, au schéma, au diagramme et aux pièces détachées. Parce qu'évidemment, si c'est bien beau pouvoir réparer, mais si t'as pas accès à toutes ces pièces-là, ça sert à rien. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a un projet de loi qui est à l'étude. Open Media, bon, a espoir que ça passe. C'est un projet de loi qui a été présenté par un député, mais qui n'est pas présenté par le gouvernement. Donc c'est toujours, on n'est jamais sûr si ça passera. Ils ont bon espoir sur ça, mais comme je disais, après ce droit à la réparabilité en tant que tel, en tant que loi, ce serait vraiment pour le monde agricole, le monde médical, tout ce qui est parce que maintenant tout étant intelligent. Tout a des puces, tout a des composants électroniques, tout a besoin de réparation et ce droit touche à presque tout, quoi.
Autrement dit, on voudrait que ça s'applique d'abord à l'industrie et après que ça puisse s'appliquer aux consommateurs, c'est un peu ce que je comprends ou?
En fait, c'est ça, il y a plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y aurait la partie où on pourrait avoir accès aux services de réparation, mais l'autre partie, c'est vraiment entre l'industrie de la réparation qui demande à avoir accès à ces schémas, à ces diagrammes, à ces pièces détachées. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je parlais du site web iFixit qui crée des guides de réparation, souvent, ils n'ont pas accès en fait à des manuels. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'ordinateur, ils le démontent, ils essaient de comprendre comment ça fonctionne, et à partir de ça, en fait, donc ils vont à l'envers. Okay. Ils démontent en essayant de regarder, ok, donc faut bien enlever cette vis-là, avant ça, ce câble-là. Mais ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, puis on n'est pas toujours sûr de bien le faire.
Je trouve ça un peu drôle parce qu'il y a quand même des précédents dans le domaine de la réparabilité. Je veux dire, on a tous un véhicule ou presque là à la maison oui. chez soi et on peut aller faire des changements d'huile, par exemple, chez, nommez-les, le Canadian Tire mm-hmm. ou les autres garages du coin de la rue et ça annule pas nécessairement la garantie qu'on a c'est sur ça. Le véhicule. Donc, j'espère, en tout cas, j'ose croire qu'à un moment donné, on va en arriver là, ici au Canada.
Mais il y a une compagnie qui existe de téléphone intelligent, le Fairphone,
okay, oui.
qui vendent des pièces détachées.
OK, oui, eux autres, ils adhèrent déjà.
Eux autres, c'est vraiment...
Pierre, on en est où ailleurs dans le monde? Là, nous, au Canada, on voit que ça progresse tranquillement pas vite. On n'est pas rendu très loin, mais je sais qu'il y a d'autres pays où eux autres, ça y va à fond de train, là.
Effectivement, il y a d'autres pays où ça avance plus vite. Et François a mentionné le Fairphone, ce qui me fait plaisir, parce que justement, j'ai un Fairphone et c'est le premier smartphone que j'ai depuis peut-être 6 ans où on peut ouvrir à l'arrière, on peut enlever la coque de protection, on peut enlever la batterie et on peut voir mm-hmm. tous les composants. Effectivement, eux vendent des pièces détachables. Et c'est un des rares seuls, mais ça commence à prendre plus d'essor. Ailleurs dans le monde, juste durant la pause de Noël, l'État de New York a adopté une loi sur la réparabilité. Et vraiment, là, on parle encore de donner accès aux réparateurs, de leur donner accès aux manuels, aux pièces détachées. Bon, il y a des exceptions, évidemment. Il y a des lobbies, par exemple, pour les automobiles qui sont mis là, comme ça, à la dernière minute, ils ont mis des exceptions dans la loi. Donc, c'est pas une loi qui est parfaite. Mais c'est quand même un symbole important. Puis, c'est un signal aussi aux autres États que bon, ça peut être fait, que c'est important de le faire. Equiter, qui est un organisme, une association de défense de l'environnement au Québec, a noté notamment qu'en Europe, ils avaient plusieurs mesures qui sont assez simples à mettre en place et très efficaces. Donc, ils ont un répertoire de réparateurs certifiés, parce que bon, son joujou à 800 pièces, on veut pas forcément le donner à n'importe qui. Puis après que un problème d'écran se retrouve avec en fait on se retrouve avec un smartphone qui ne fonctionne plus, mais aussi un indice de réparabilité et de durabilité. Je pense qu'on a okay. on s'est tous plaint des mises à jour de téléphone, puis d'un coup le téléphone est lent, puis on peut plus s'en servir ou même des outils de cuisine hein, qui se portaient bien et puis hop qui arrêtent de fonctionner quand on parle d'obsolescence programmée. Ces deux mesures. Puis la dernière mesure, c'est l'Europe, le Parlement européen qui va forcer en fait les fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables à utiliser un connecteur USB-C, tous le même.
Oui.
Ce qui et en fait vraiment c'est le cas pour 99% des gens, sauf évidemment c'est toujours le même. C'est Apple qui préfère son propre connecteur, qui dit que voilà c'est une question de technologie, qu'ils le font mieux et tout. Sauf qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il nous faut tous plusieurs câbles et la standardisation c'est aussi en fait un de ces grands enjeux en fait pour ce droit à la réparabilité. Parce que si on standardise, on n'a pas besoin de multiplier les câbles, c'est plus simple à réparer. Et j'ai vu même un peu dans ces rapports émerger en fait le concept de pièces détachées génériques, comme les médicaments en fait, où on aurait des pièces détachées qui pourraient être utilisées pour à travers différents constructeurs.
Mais au moins on en parle, ça avance un peu. Oui, ça va prendre du temps là, mais ça va avancer. Et les gens sont de plus en plus conscients aussi.
Ben il y a oui effectivement il y a encore de quoi faire mais je tiendrai à encourager les auditeurs à garder un œil sur ce qui se passe à travers soit la campagne d'Open Media et en français pas chez Open Media mais il y a effectivement ces ressources chez Equiter qui ont fait toute une analyse de comment est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place ce droit-là, un rapport très complet et très intéressant que je vous recommande.
Merci. Pierre Chauvin, geek devant l'éternel, chroniqueur techno qu'on va retrouver à quelques reprises avec ses éclairs de génie en ce qui concerne les technologies. Merci beaucoup pour cette chronique sur la réparabilité.
Merci Simon.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Simon, tu sais que j'aime ça parler de voiture. Ça m'a toujours passionné depuis que je suis petit, depuis que j'ai eu ma première voiture, une rutilante Chevrolet Vega.
Ouais, je m'en vanterai pas, mais...
Non, moi non plus. Non, je m'en vante pas vraiment.
Mais non, je sais.
Comme un gros 4 cylindres en aluminium là-dedans. C'était terrible comme voiture, mais... Ça a avancé depuis ce temps-là.
Oui.
Et là, c'est la nouvelle année. On aimerait ça savoir. Tu sais, l'industrie automobile, on va s'attendre à quoi cette année? On a le plaisir d'accueillir à nouveau à l'émission Monsieur Marc Bouchard, un vrai gars de char. Salut, Marc.
Salut. Je vais te rassurer tout de suite. Tu as eu une Vega.
Oui.
J'ai eu une Aztec.
Ok, c'est correct. Ça s'équivaut un peu.
On dirait deux gars qui se relancent, mais dans le sens inverse.
C'est
pas celui qui va aller le plus loin, c'est celui qui va aller le moins loin.
C'est celui qui a eu le char le plus laid. Marc, la nouvelle année, il y a un tas de nouveautés, j'imagine, qui s'en viennent pour l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu cette année?
D'abord, il va falloir que la situation se stabilise.
Mm-hmm.
Je pense que ça, c'est le plus grand défi des prochains mois parce que, on le sait, les dernières années ont été difficiles. On n'a pas besoin de vous rappeler là, les problèmes d'inventaire, les problèmes de microprocesseurs, bon, une certaine pandémie. Donc, évidemment, ça a posé toutes sortes de problèmes au point où l'année dernière, on a vendu au Canada 1,3 million de véhicules neufs alors que la moyenne précédente était tout près de 2 millions.
Wow.
Donc, c'est un énorme écart. Là, on parle de 700 000 de différence. C'est vraiment beaucoup. Il va falloir corriger ce tir-là au cours des prochains mois. Et ce que ça veut dire, c'est que les inventaires vont devoir augmenter. Ça, c'est le premier grand défi qui attend les manufacturiers. Donc, il faut s'attendre à une augmentation de la production. Et, bon, malheureusement, qui va être aidé par l'inflation, les taux d'intérêt étant élevés, ça limite les ventes, mais ça va permettre à la production de rattraper un peu son retard et ça devrait, la bonne nouvelle, à terme, faire baisser les coûts des voitures, incluant le coût des voitures d'occasion. Parce que plus il y aura de disponibilité, mm-hmm. bien entendu, moins la voiture sera dispendieuse. Mais c'est sûr que, regardez, on s'attend pas que ça va se donner. Puis la tendance va vers, de toute façon, des voitures de plus en plus chères. Alors que la moyenne canadienne était d'à peu près 42 000 $ par transaction il y a 2 ans, elle est à 48 000 $ actuellement.
Mm. Ouch!
C'est assez imposant comme différence. Ça, évidemment, là, c'est l'analyse générale du marché. D'un point de vue plus détaillé, clairement, on se tourne davantage vers l'électrification ou vers, à tout le moins, une forme de baisse de consommation de carburant. Ça veut dire une plus grande abondance de véhicules hybrides branchables qui vont arriver et qui sont, ma foi, des véhicules que j'ai bien hâte d'essayer. certains étant déjà connus ou en tout cas sortis, et d'autres vont arriver au cours des prochains mois.
C'est quoi, Marc, là, les dévoilements ou les lancements justement de 2023 que toi, là, personnellement, comme chroniqueur automobile, tu attends le plus?
Dévoilement, les lancements, c'est difficile à dire parce que y a des véhicules qui vont arriver, mais bon, les dates, évidemment, c'est toujours un petit peu là aléatoire. Le véhicule que moi, j'ai hâte de voir arriver, c'est le Chevrolet Equinox électrique. La raison de ça, c'est que, bon, on nous a présenté le concept, il était d'ailleurs au Salon de l'Auto de Montréal, mais ce qui est surtout important, c'est le fait que ce véhicule-là, en version de base, va arriver comme un VUS à 37 000 $.
Wow!
C'est ce qu'on appelle, excusez le mot latin, mais c'est un game changer.
Okay.
C'est littéralement un véhicule qui pourrait changer la donne parce que en offrant une capacité de VUS à un coût plus abordable, définitivement, ça va inciter davantage de gens à se tourner vers l'électrique. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il y aura aussi d'autres modèles qui vont arriver, entre autres le Silverado électrique, une camionnette 100% électrique qui risque d'être fort intéressante. Ça aussi, c'est bien. Et il y a des voitures, moi j'ai eu l'occasion d'essayer la nouvelle Toyota Prius, qui est une hybride, et là, elle va arriver en version hybride branchable. Et ça, c'est une alternative intéressante au Canada parce que on sait dans certaines provinces, l'Ontario, pour ne pas la nommer, entre autres, les bornes de recharge sont un peu difficiles, ça fonctionne pas, personne ne se parle entre eux autres pour établir des réseaux, donc ça crée un problème pour les gens qui veulent adopter un véhicule 100% électrique, et souvent l'hybride branchable est une solution intéressante et une alternative qui permet à tout le moins de diminuer la consommation, et la Prius Prime, dans cet esprit-là, est évidemment le grand chef, c'est elle qui domine les classements depuis des années. Et la nouvelle Prius, écoutez, j'aurais jamais pensé dire ça dans ma vie dans la même phrase, mais la Toyota Prius, elle est sexy et dynamique maintenant.
Oui, ma soeur, elle a une 2021, là, et honnêtement, là, jamais j'aurais dit que sa voiture est sexy et surtout pas dynamique.
Allez voir les 98 et vous allez voir que c'est encore pire.
Oui, effectivement.
Parce qu'on l'a depuis 1998. Alors, c'est effectivement, mais si vous regardez la nouvelle Prius, elle est vraiment magnifique, elle est superbe. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion d'essayer la nouvelle version hybride seulement et honnêtement, là, le comportement routier est exceptionnel. C'est une voiture de grande route, c'est une voiture très agréable à conduire. Donc ça fait partie évidemment des nouveautés qu'on a très hâte d'essayer. Ce que j'ai hâte d'essayer aussi, c'est VinFast. Ça, c'est, comment je pourrais dire, c'est la grande interrogation, je vous dirais. Parce que c'est une compagnie qui a beaucoup, beaucoup de sous, là. VinGroup, là, c'est une compagnie vietnamienne qui est vraiment très riche, qui dispose de... Ils ont des hôtels 5 étoiles, ils ont des bateaux de croisière, ils ont des usines de toutes sortes d'affaires. C'est vraiment assez spectaculaire. Et ils ont mis de l'argent dans le développement d'une voiture qui est plutôt jolie. Ils ont même fait appel à Pininfarina pour le design. C'est pas rien, c'est celui qui a dessiné des Ferrari, quand même. Mais il y a des éléments qui me préoccupent un peu. D'abord, c'est leur première voiture, parce que la compagnie n'existe que depuis 2017. Deuxièmement, ce sont des voitures où on a proposé un plan d'affaires qui est un peu particulier, c'est-à-dire que vous avez le choix d'acheter la voiture et de louer la batterie. Ouais. Alors là, finalement, il offre le choix maintenant, on peut l'acheter tout équipé avec la batterie ou toujours la louer, mais c'est quand même un peu spécial parce que on vous proposait pour 300 $ ou plus par mois de faire jusqu'à 1000 ou 2000 km par mois avec une batterie. Ça, pour moi, ça revient à comme je l'achète une auto puis je loue mon réservoir à essence.
Ça me
dérange un peu, là. Ça me rentre pas dans la tête. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, est-ce que la qualité de finition va être là? Est-ce que la fiabilité va être là? On ne le sait pas. Ce sont des voitures qui commencent à peine à arriver au compte-gouttes. Il y a très, très peu d'endroits où on les vend actuellement. Puis, il y a eu des voyages qui ont été faits au Vietnam pour faire l'essai. Mais, objectivement, soyons francs, c'était davantage des voyages de propagande pour présenter la compagnie parce que l'essai durait 4 km. Là. Donc, Okay. Bon, moi, je suis pas allé. J'ai refusé d'y aller parce que je trouvais que c'était un petit peu indécent d'aller me faire payer une semaine de vacances au Vietnam pour essayer pendant 8 minutes un véhicule.
Ben ouais.
Mais j'ai des collègues qui sont allés. Puis bon, ben évidemment, c'est difficile d'évaluer la voiture dans un contexte comme celui-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est difficile de prévoir ce qui s'en vient avec cette compagnie-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations.
Ouais.
Donc, ça, c'est évidemment parmi les nouveautés. Il y en aura tout plein d'autres. Chez Mazda, par exemple, on va nous arriver avec des nouveaux véhicules CX-70, CX-90,
ouais,
des véhicules familiaux, là, des VUS à 5 ou 7 passagers, et qui vont aussi arriver avec une version hybride branchable. Ce qui est une première du côté de chez Mazda. Le défaut, le bémol chez Mazda, c'est qu'on nous présente toujours la MX-30 électrique, qui a une autonomie de 160 km, mais on vient de lancer en Europe la MX-30 avec un prolongateur d'autonomie, donc un petit moteur à essence qui permet de recharger la batterie, mais cette version-là ne sera pas disponible au Canada pour le moment. Donc, on va se contenter du 160 km, qui, au mois de janvier, à moins 25, devrait se transposer en 82 km à peu près. Fait que ça fait aussi partie des exigences. Y a évidemment toutes sortes de nouveautés qui vont arriver en cours d'année. Là, Volkswagen a présenté ce qu'ils ont appelé une espèce de nouvelle Passat qui va être la ID7, qui est une berline de grand format qui devrait, elle aussi, arriver. Et moi, je pense qu'une des compagnies à surveiller, ils ont déjà lancé leur modèle, mais ils continuent de le faire. Une des compagnies à surveiller, ça va être BMW, qui a des modèles électriques absolument fabuleux. On aime ou pas le design, là, je vous le dis, il y en a qui sont un petit peu particuliers. Je pense au iX, entre autres, là. Mais ce sont des véhicules qui ont une qualité électrique indéniable, qui ont un plaisir de conduite qui est propre à BMW et que l'on retrouve en version électrique comme en version à essence. Moi, j'ai essayé la i4 électrique et littéralement, j'étais scotché à mon banc, là. c'est vraiment un monstre. Et on continue, on arrive avec une i7, on arrive avec un iX M60, donc un gros VUS 100% électrique de performance. Donc, on est vraiment dans ce monde-là du côté de chez BMW. Alors, ça va valoir la peine d'être surveillé. Et bien sûr, ben parmi les ceux qu'on va surveiller aussi, c'est ce que Toyota va finalement faire au niveau de l'électrification.
Oui.
On a présenté le BZ4X.
Mm-hmm.
Et non, c'est pas un nom d'extraterrestre, là, c'est vraiment le nom de leur véhicule. mais, là, ils veulent présenter le BZ3X. Est-ce qu'ils vont vraiment se lancer là-dedans? On sait que Toyota, le président de Toyota, a émis de lourdes réserves quant à l'idée d'électrifier toute sa gamme. Donc, on verra ce qui va se passer dans l'avenir.
Grosse année pour les amateurs d'automobile 2023, oui. Encore une fois. Marc Bouchard, on vous invite les gens à aller visiter son site web, marcbouchard.ca. Vous allez trouver des essais de véhicules, des nouvelles, et puis, bien entendu, le fameux balado avec ton gars, hein?
Ouais, c'est ça. Mon fils et moi qui, je le répète, mon fils qui n'a rien d'un gars de char, qui est étudiant à la maîtrise en grec ancien, a décidé qu'il se lançait dans la balado avec moi. On fait ça chaque semaine, on traite de nouvelles. D'ailleurs, cette semaine, messieurs, j'avais envie de vous en parler avant qu'on termine, par exemple. Est-ce que vous aimez les voitures sport?
Ouais, un peu.
Oui.
Bon, je vous invite à écouter la balado. On parle d'une étude qui prouve, entre autres, que les gens qui aiment le plus les voitures sport ont généralement l'organe masculin le plus petit du marché.
Oh, fait que le fameux grosse Corvette.
Ouais, exactement, c'est prouvé scientifiquement maintenant. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait croire aux gens que la moyenne de longueur d'un organe masculin était de 4 pouces, par exemple, et à d'autres, on a fait croire que la moyenne, elle était de 8 pouces. Alors, ceux qui croyaient que la moyenne était de 4 pouces, alors que la réalité, d'ailleurs, vous pouvez l'apprendre dans cette chronique, c'est 5,9 pouces, je vous le dis tout de suite.
Okay.
Donc, les gens qui avaient plus que 4 pouces se sentaient un peu gonflés. Ceux qui avaient moins de 8 pouces se sentaient en dessous de la moyenne. Après ça, on a posé la question à tout le monde, quelle sorte de voiture allez-vous vous acheter? Mais ceux qui se sentaient en dessous de la moyenne ont en général choisi des voitures sport plus puissantes. Voilà.
Intéressant. Une belle conclusion.
Ah oui.
Marc Bouchard. Marc, merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver une autre fois pour d'autres trucs, astuces, conseils et nouvelles sur le monde de l'automobile.
Ça me ferait grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous parler, messieurs, et de vous instruire sur le monde automobile.
Merci, Marc.
Merci.
Bye-bye.
cette émission
peut contenir des infos.
Dernier quart d'heure de l'émission peut contenir des infos. J'espère que jusque-là, vous ne nous avez pas fait faux bond. Et remarquez une chose, c'est que si vous nous entendez,
oui.
De deux choses l'une, ou vous êtes là depuis le début,
c'est ça.
Ou ben non, vous êtes arrivé en chemin.
Vous venez juste d'arriver, c'est...
Parlant de chemin...
Oui, parlant de chemin et de chemin aérien.
Oui, toi, tu as nous parlé tantôt de quelque chose de bien spécial.
Oui.
Un gars qui a pris la route, si on peut dire, de l'océan.
C'est ça, exactement. Mais ça a rapport avec ton sujet que tu vas aborder.
Ouais.
On va parler d'avion.
L'avion commercial à l'hydrogène, c'est peut-être pour demain. Ouais.
Ah, si proche, tu penses, hein?
Ouais, ouais, ouais. Ah, non, ouais. Ben, demain.
Hey, ben, demain, ben,
pas demain matin, là, mais. mettons 24-25.
C'est OK.
Chose dans genre. Ben, vois-tu, c'est qu'il y a des dérèglements climatiques actuellement.
Oui.
On a des gros problèmes de réchauffement de la planète et, on se le cachera pas, l'industrie de l'aviation civile et commerciale, évidemment, c'est un gros problème. C'est gros secteur de pollution.
Oui.
On fait beaucoup de pression d'ailleurs pour que l'aviation réduise les gaz à effet de serre. On dit que l'aviation commerciale représenterait, grosso modo, à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Vous allez me dire 3% sur l'ensemble, c'est plutôt négligeable. Mais quand on sait que l'aviation, ouais. c'est quand même pas non plus comme l'industrie manufacturière qui vire 5, 6, 7 jours semaine, puis c'est pas non plus comme les autos qu'on voit un petit
c'est
peu partout sur nos routes. Là.
Ouais.
L'aviation, ça reste quand même de déplacer du monde d'un point A au point B pour aller, je sais pas, au Mexique, à Amsterdam ou name it, là.
Ouais.
C'est ça. Alors, on cherche des solutions pour accoucher d'innovations technologiques qui vont réduire l'empreinte carbone, mais jusque-là, il n'y avait pas grand-chose de concluant. Je veux dire, oui, il y a eu des choses qui sont arrivées. Il y a des projets qui ont été très intéressants. Je pense entre autres à Solar Impulse.
Oui.
Tu connais, hein? C'est le premier avion solaire qui a été capable d'effectuer le tour du monde sans carburant ni émissions polluantes pendant tout son vol. Tour du monde, là.
Oui. C'est juste que les trajets étaient relativement courts.
Ben oui, c'est
parce
ça.
Parce que c'est ça, je veux dire, t'as pas l'autonomie.
D'une part, il a fait l'optimisation de son trajet. D'autre part, Solar Impulse, il y a une différence entre un avion avec une personne dedans.
Oui.
Ben Boeing 747.
Ouais, exactement.
Vous êtes capable de faire un peu le rapport des grosseurs, là?
Oui, c'est ça.
C'est un peu différent, là.
oui.
Alors, c'est quand même, tu sais, c'est ça, c'est un appareil monoplace.
Oui, puis on a fait des tests aussi avec les batteries, puis des choses comme ça, là.
Mais là, l'industrie vient de franchir sans doute un pas très, très important avec l'essai récemment d'un avion doté d'un moteur électrique à hydrogène qui ne produit aucune émission de carbone. Parce qu'on sait que brûler
c'est
l'hydrogène, c'est de la vapeur d'eau.
C'est ça,
effectivement,
c'est de la vapeur.
C'est la compagnie Zero Avia qui a effectué récemment un vol d'essai d'une dizaine de minutes au Royaume-Uni dans un avion bimoteur, le Dornier 228 ou Dornier 228 qu'on dit. C'est un appareil, et il est devenu ainsi le plus gros appareil à avoir volé à l'hydrogène, 19 places.
19 places. OK, ben non, OK, je commence à...
OK, là, je vous entends, là. On n'est pas encore dans un Airbus A300.
C'est ça,
là,
oui. C'est pas un Boeing, là, mais Boeing, quand même, là.
Mais quand même, 19 places, il y a une coche entre le monoplace de tantôt, là, puis un
avion... C'est les petits avions régionaux, là.
C'est ça. Alors, lui, il était doté de piles à combustible alimentées à l'hydrogène. Évidemment, 19 places, ça reste 19 places, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'à ce jour, c'est le plus gros avion à avoir réussi un vol propulsé par l'hydrogène, donc sans émission de carbone. Et d'ailleurs, on l'a dit durant la saison automnale avec Marc Bouchard, l'hydrogène, ça reste actuellement, ou ça pourrait être l'une des façons justement de décarboniser, entre guillemets, le monde du transport.
Absolument, les solutions les plus simples.
Dans la mesure où, comme tu disais, c'est probablement une des façons qui seraient les plus faciles de passer de la consommation de carburant fossile à quelque chose d'un peu plus respectueux.
Effectivement, parce que c'est les mêmes infrastructures.
Le problème qui perdure actuellement, là, on se le cachera pas, c'est que produire de l'hydrogène, ça consomme quand même de l'énergie fossile pour le réaliser. Mais à terme, quand on trouvera, espérons-le, une façon de produire de l'hydrogène sans
vert,
c'est ça, avec de l'hydroélectricité, par exemple, ou des trucs du genre, ça risque d'être quand même très intéressant. Et ce Dornier 228 a été modernisé avec un prototype donc de moteur électrique à hydrogène, deux piles à combustible qu'on a installées sur l'aile de l'avion, et il y avait en dedans un système de batterie lithium-ion.
Okay.
Ça dit-tu de quoi, ce lithium?
Ben, oui.
C'est les batteries...
Prends une dans mon téléphone.
Ben, c'est des batteries rechargeables que tout le monde utilise. Il y avait ça pour assurer une espèce de surplus de puissance et la sécurité. Puis, sur l'autre aile, on a installé un moteur ordinaire. Mais, le moteur ordinaire, on s'en est pas servi. Il était juste là comme une espèce de backup, si
okay.
on veut,
oh, oui.
comme une protection. Il, dans le fond, là, il a juste volé avec son moteur qui est installé sur l'aile gauche. Parce que le moteur ordinaire qui était sur l'aile droite, lui, il a jamais fonctionné. Et puis, ils ont décollé comme ça. Ils ont effectué un vol complet d'une dizaine de minutes, vitesse d'environ 120 nœuds, c'est à peu près 220 km/h.
Ouais.
Il est revenu à son point de départ. Tout ça juste avec un moteur à l'hydrogène, puis une petite poussée avec les batteries lithium-ion. Et ce qu'on espère faire d'ici la fin de l'année, c'est d'une part finaliser une configuration qui permettrait de commercialiser ce moteur-là d'ici la fin de 2023. Là,
okay.
Faire quelque chose, d'avoir une espèce de certification. On pense pas pour l'heure là qu'il va y avoir deux moteurs comme ça qui vont être sur les avions. D'abord pour les espèces de conditions de sécurité, on va dire, on va toujours s'assurer.
C'est peut-être mieux d'avoir un moteur d'une autre.
Ouais, c'est oui. ça. Espèce d'hybridation, si oui. on veut, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu plus sécuritaire de voler ouais. dans un avion qu'on sait qu'il tombera pas en rade comme ça pour des raisons X, Y, Z. Mais l'entreprise progresse quand même assez rapidement, puis on n'écarte pas la possibilité qu'un jour, à un moment donné, il y ait des avions qui fonctionnent juste avec des moteurs à l'hydrogène. Ouais. D'ailleurs, c'est une initiative qui profite du soutien du gouvernement britannique. On veut développer un groupe motopropulseur qui pourrait permettre des vols sans émissions de gaz à effet de serre pour des avions de 9 à 19 places, comme celui-là, okay. par exemple, porté de 300 000 marins, donc à peu près 550 km. C'est des vols régionaux. C'est comme, on va dire, partir de Montréal aller à Toronto ou un truc du genre, ou peut-être aller à Québec, là, je sais pas trop.
Ouais.
Et on a déjà 1500 précommandes okay. dans le carnet, donc ils sont quand même assez avancés pour déjà prendre des commandes. Et précisément pour ce type de moteur-là, là, celui qu'on a essayé, il y a 700 précommandes juste pour ça, pour ce vol, en fait, ce moteur-là qu'on a. Donc on est là, on dit qu'on pourrait faire des vols commerciaux d'ici 2025. Quand je te disais que c'est demain.
2025, oui.
Pour l'un de ça.
C'est à notre porte, là.
Et on espère, en 2027, équiper des appareils de 40 à 80 places qui seraient, quant à eux, capables de faire jusqu'à 1200 kilomètres.
1200 kilomètres, OK. Oui, ça commence à être intéressant, là.
C'est intéressant.
Oui.
Et espérons que c'est de cette façon-là, éventuellement, je ne sais pas si je vais voir ça de mon vivant, là, mais qu'on pourrait avoir des vols
ouais.
qui n'auraient pas besoin de carburant fossile, là, de fameux.
Parce que tu sais, le trafic kérosène. Aérien puis le trafic maritime, là.
Ah, les bateaux de croisière.
C'est, il va falloir à un moment donné que. T'sais, faut voir que ça change. Là,
c'est outrageux.
Que, oui.
C'est outrageux. J'en veux pas aux gens qui embarquent dans une croisière de temps en temps. C'est pas ça l'idée, là, mais.
Puis même à ça, je veux dire, le transport maritime.
Ben.
Et le transport cargo de maritime, là, je veux dire, à un moment donné, là, il s'en prend du fuel, ça, là.
Ouais, absolument. Alors, espérons qu'on va, à terme, d'ici quelques années, réussir à se débarrasser.
Pour améliorer la situation, là.
Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Même si c'est pas pour des questions environnementales, tu sais, de savoir qu'on progresse dans les technologies, il y a de l'avancement, il y a des nouvelles alternatives, des choses comme ça, ben, c'est le progrès humain.
Puis si on veut laisser une planète à nos enfants, là.
Ouais, exactement.
Ouais. Simon, on a parlé d'avion. Je vais faire un petit peu de pouce là-dessus, mais on a parlé aussi
de transport
maritime.
Oui.
Alors, les deux vont se jumeler dans ma petite histoire.
OK.
Au mois de décembre, un monsieur qui s'appelle Elvis François, c'est un Dominicain qui a 47 ans, il a réparé un voilier.
Okay.
En face d'un port de Saint-Martin, une île du nord-est des Antilles. Malheureusement, il a été emporté vers le large en raison des mauvaises conditions météorologiques. Et sans aucune connaissance de la navigation, il était perdu, désorienté en mer, parce que tu sais, à un moment donné, là, tu vois plus de terre, là.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu sais plus ce que t'es rendu.
Donc, c'est pas Gilligan's Island.
Si t'es pas capable de lire tes instruments, tu sais pas où ce que t'es rendu.
C'est ça.
Ses efforts pour manœuvrer le navire et les équipements à bord ils ont vraiment rien servi pour lui parce que, il comprenait pas exactement comment tout bien faire fonctionner. À plusieurs reprises, il a essayé de passer des appels, mais en vain, faute, bien entendu, de réseau. Le pauvre monsieur, il avait rien à manger. Il a fouillé sur le bateau et il a trouvé une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes de bouillon. Ben, crois-le ou crois-le pas, il a mélangé ça avec de l'eau, là. Ça lui a permis de survivre pendant 24 jours.
C'est bon.
Il a survécu 24 jours avec une bouteille de ketchup. On ne sait pas si c'était du Heinz ou une autre marque, mais en tout cas, ce qu'il y avait dans la bouteille de ketchup lui a permis de survivre tout ce temps-là. Ça peut être bien, bien bon, par exemple, comme stuff. Là,
mais... Ça fait pas une alimentation très variée, en tout cas.
Ben
pâte de tomate, vinaigre, sucre.
C'est ça.
C'est à peu près ça, là, du ketchup
mal
aux tomates, là.
Oui.
Excusez, là, je veux dire.
Ben, c'est ça que c'est, hein.
C'est pareil.
Il pouvait donc rien faire. Il est obligé, ben, évidemment, il a attendu puis il attendait que... Il se levait le matin, puis coudonc, il espérait. Il avait écrit le mot « help » sur la coque de son voilier. À un moment donné, il s'est retrouvé jusqu'à 120 000 nautiques de la côte. Il était à 220 kilomètres, finalement. Finalement, le 15 janvier, il a vu passer un avion.
Il a battu les bras.
Un petit peu plus que ça.
Un peu plus, oui.
Il a réagi assez vite. Il a pris un miroir.
Ah, ben oui.
Et là, avec le soleil, il a commencé à faire des signes. Jusqu'au moment où il a vu repasser l'avion une deuxième fois, et là, il a compris que...
On l'avait vu.
OK, là, je vais survivre.
24 jours.
Ouais, et il s'est fait...
24 jours en mer avec une bouteille de ketchup.
Ils l'ont retourné en Dominique. Oui.
Donc, la morale de l'histoire, mesdames, messieurs,
oui,
c'est que si vous partez en camping sauvage, en forêt, oui, en randonnée ou oui, quelque part du genre...
Ça vous prend une bouteille de ketchup.
La première affaire à mettre dans votre pack-sac...
C'est la première chose.
Je blague, là, évidemment.
Non, trousse de survie, ça te prend une bouteille de ketchup.
Mais t'es un peu plus que ça, mais n'oubliez pas qu'une bouteille de ketchup peut quand même vous faire tenir pendant un bon moment,
oui,
même jusqu'à 24 jours.
Jusqu'à 24 jours.
C'est trois semaines, ça.
Ah oui, c'est...
3 × 7, 21, même plus que trois semaines.
Plus que trois semaines.
Wow!
C'est sûr que les bouillons, là, les petits cubes de bouillon ont probablement dû aider aussi, là, mais
oui,
je veux dire, l'histoire, c'est que c'est la bouteille de ketchup, là.
Eh ben voilà, quand même, ça termine bien l'émission.
Ben,
ça termine
oui,
sur une bonne note. On peut se sauver avec une bouteille de ketchup.
C'est ça. Et on l'a retrouvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Il est sain et sauf.
Merci, François. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là pour plus contenir des infos. Tu me promets d'être là la semaine prochaine, là.
Oui, absolument.
Apporte-moi une bouteille de ketchup, là.
C'est ça.
Parce que c'est un beau cadeau à offrir, ça.
Non, mais c'est... ça te prend du ketchup, parce que des fois, quand ça goûte à rien, ben, un petit peu de ketchup.
Un petit peu de ketchup.
Ça aide.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Bonne semaine.